France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans Le Grand Face-à-Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque semaine, ils ne manqueront pas d'échanger autour des grandes questions d'actualité. Le manque, justement, c'est au cœur du percutant et très stimulant essai philosophique de notre invité pour le débat. Mazarine Pinjot signe Vivre sans, une philosophie du manque chez Flammarion. Le manque, synonyme d'absence, ne peut-il pas parfois être vertueux? Nous en parlerons tout à l'heure, mais pour l'instant, place au duel.
Le grand face-à-face. Thomas Negarov sur France Inter.
La Russie a changé de posture, c'est notre avis, c'est notre analyse. Elle ne s'arrêtera pas là. Et donc, dans ce cadre-là, le cadre fixé par le président de la République de ne rien exclure permet d'envoyer un message très clair que nous ne lâcherons pas le combat avec les Ukrainiens.
C'était hier matin sur France Inter et je vous salue, Natacha et Gilles. Bonjour à tous
bonjour.
Les deux.
Bonjour.
Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, qui justifie ainsi les propos d'Emmanuel Macron pour qui l'envoi de troupes pour soutenir l'Ukraine n'est plus inenvisageable. Gilles, est-ce que Macron a eu raison ou est-ce qu'il a isolé la France ou est-ce que c'est un peu les deux?
Écoutez, pour résumer, je suis assez largement en désaccord avec les propos d'Emmanuel Macron qui sont, je trouve, assez incompréhensibles, mais aussi largement en désaccord avec les critiques qui ont été formulées contre lui, qui sont souvent inconséquentes.
Vous êtes normand, non ?
Donc je commence par Macron et on viendra sans doute au reste après. Le paradoxe, c'est que le sommet a été un vrai succès. Il se tenait au bon moment. 2 ans après l'invasion de l'Ukraine, il a montré un symbole d'unité où, en dépit de son caractère un peu improvisé, il y avait 20 chefs d'État et de gouvernement qui étaient là. Et surtout, il a envoyé un message de mobilisation et de détermination. Et la déclaration du président de la République a transformé ce succès en échec, un peu comme on transforme l'or en plomb, à la fois pour lui-même, parce qu'il est sorti extrêmement isolé, non seulement de ceux qui n'étaient pas là, on a vu les déclarations des États-Unis ou du Royaume-Uni, mais surtout de tous ceux qui étaient autour de la table, à l'exception des États baltes, isolés par rapport à ses pairs, isolés dans l'opinion. Le Figaro a publié hier un sondage qui montre que 75% des Français sont en désaccord avec cette position. Donc échec pour lui et surtout échec pour l'Union européenne, dont on voit que l'unité est une unité de façade et que la mobilisation est une mobilisation en carton. Pour inverser la formule célèbre du cardinal de Retz, nous sommes entrés dans l'ambiguïté à notre détriment.
Mobilisation en carton quand même, est-ce qu'on n'exagère pas un peu parce qu'il y a des dizaines de milliards d'euros, il y a des accords de libre-échange céréaliers, enfin agricoles avec l'Ukraine pour le soutenir. C'est pas en carton ça.
Non, ça c'est très concret, c'est ce en quoi ce sommet était un succès. En carton parce qu'on voit la fragilité, les limites, les ambiguïtés, les divisions sur cette mobilisation.
Natacha, est-ce que dire 75% des Français sont hostiles, ça ne clôt pas le débat? Est-ce qu'on attend aussi peut-être un débat démocratique sur ce sujet-là?
Alors, on attendrait en effet un débat démocratique, mais qui ne se résume pas à un sondage, qui devrait passer par une discussion de fond, notamment chez les représentants, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, au Sénat. Il serait temps de discuter réellement de la vision que la France a de ce conflit. Ça n'a pas été fait. Mais surtout, il y a plusieurs problèmes posés par la séquence de cette semaine. Le premier point, Gilles l'a dit, c'est la question du message brouillé qu'a envoyé Emmanuel Macron et qui laisse quand même penser qu'une fois de plus, Emmanuel Macron a voulu faire un coup, ce qui en matière de politique étrangère est encore pire qu'en matière de politique intérieure. On ne fait pas de coup, on ne le fait pas sans en avoir discuté avec ses partenaires et on ne le fait pas sans une précision extrême. Le fait d'être obligé, juste après une déclaration, d'envoyer des conseillers expliquer à tout le monde qu'il n'a pas exactement voulu dire ça, que ça a été mal compris, des troupes, c'est en fait des formateurs, etc., oui. C'est calamiteux. Et ça montre, en fait, une forme de fébrilité qu'on a vu d'ailleurs toute la semaine ensuite à différents degrés, c'est-à-dire que ce qui me frappe dans les réactions, c'est l'hystérie totale de la part de beaucoup de commentateurs. Entre ceux qui sont en France et en Europe totalement pro-russes, mais ça on les connaît, on les a identifiés, et ceux de l'autre côté qui... de toute façon, traque les ennemis de l'intérieur et essaye de démontrer que quiconque n'a pas l'intention immédiatement d'envoyer des armées sur le front est un suppôt de Poutine. Et je pense que ça devient profondément malsain et qu'il faut essayer de comprendre pourquoi on en arrive là. Parce qu'en fait, ces déclarations, ces maladresses et cette division... puisque la division est importante et profonde, notamment avec l'Allemagne. Cette division vient d'une fébrilité de la part des Européens qui est liée au fait que le contexte des élections américaines implique un retrait progressif américain, c'est-à-dire, bon, il y a la peur, évidemment, de ce que donnerait une élection de Donald Trump, mais en attendant... Joe Biden est coincé aux entournures et donc est un peu prisonnier des limites qui lui sont imposées par les élus républicains. Et ce flottement, plus, on peut y ajouter le flottement sur le front où l'Ukraine est fragilisée, et est fragilisée parce que de fait, le soutien militaire... ne suit pas suffisamment, c'est-à-dire que les Ukrainiens manquent de munitions, manquent en fait d'armement, et c'est là où il faudrait que les Européens et les Américains soient présents. Mais donc tout cela fait que les Européens se disent, il faut que nous prenions, et je pense que en fait Emmanuel Macron s'est dit, il faut que nous prenions le leadership, et je vais prendre le leadership. Sauf que je crois que c'est une très mauvaise position parce que ça ferait une fois de plus que l'Europe paierait pour quelque chose qui relève quand même largement et historiquement de la responsabilité des États-Unis qui doivent, à un moment donné, assumer leur position. Et donc, la position raisonnable, me semble-t-il, c'est d'imposer aux États-Unis, justement, de se comporter de façon responsable et d'assumer leur responsabilité historique.
Gilles, là-dessus, c'est pas une affaire vraiment européenne, la question de l'Ukraine ?
Alors, c'est une affaire européenne, c'est pas seulement une histoire européenne. Natacha dit, il serait temps d'avoir un débat démocratique. Eh ben, ça tombe bien, puisqu'il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale sur l'accord bilatéral franco-ukrainien, et donc qui va permettre d'avoir le débat plus large sur la situation. Emmanuel Macron a fait un coup, sans en avoir parlé à ses partenaires. Le problème est plus grave que ça, parce qu'ils en ont parlé. Ils en ont parlé pendant le sommet, avec un désaccord, mais malgré tout, il est sorti avec cette déclaration. Et enfin, et j'en viens à ce qui est pour moi la question essentielle, et c'est ce pourquoi je disais tout à l'heure que j'étais aussi largement en désaccord avec les critiques formulées par ses opposants. Je prends une déclaration qui m'a frappé, celle de Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, qui dit « le meilleur moyen d'affaiblir Vladimir Poutine, c'est de faire la paix ». Dont le raisonnement, je crois, est particulièrement indigent. La question centrale, c'est qu'est-ce qui se joue en Ukraine ? Quelle est la réalité et la nature de la menace que fait peser Vladimir Poutine ?
Sur l'Ukraine et sur nous.
Exactement. Soit on dit que c'est une affaire principalement russo-ukrainienne. Certains, en réalité, pensent ça. Et donc, qu'ils trouvent un compromis... c'est-à-dire, en gros, sur la ligne de front actuelle et sur la Crimée. Soit on dit que c'est aussi notre affaire, parce que non seulement on a des valeurs communes avec l'Ukraine, mais pas seulement une question de valeurs, parce que c'est notre intérêt à nous, Européens, et à nous, Français, qui se joue aussi, et que Vladimir Poutine fait peser une menace aussi par ses actions de déstabilisation et ses visées territoriale sur nous-mêmes. Si on dit ça, et c'est ce que moi, je crois, la question est comment fait-on pour empêcher Vladimir Poutine ? Et donc, je crois, sur ce point-là, Emmanuel Macron a raison, qu'il faut... Il y a une question d'abord d'état d'esprit, c'est il faut avoir de la mobilité, une réflexion mobile. C'est-à-dire que la situation a évolué, Natacha l'a dit, et un des points majeurs qui a évolué au-delà des difficultés sur le front, c'est ce qui se passe au Congrès américain sur la livraison d'armes, et sur ce qui ne se passe pas, et en perspective, le risque d'une victoire de Donald Trump. Et donc, notre position à nous a évolué, Emmanuel Macron l'a souligné et il a raison, et elle doit pouvoir évoluer encore. L'essentiel à ce stade, c'est pas la réflexion qu'a engagée Emmanuel Macron, c'est les décisions qui doivent être prises et les promesses qui doivent être tenues. On en est loin aujourd'hui.
Natacha, ce que dit Gilles, c'est aussi du pragmatisme. Vous dites, il faut en appeler plutôt à la responsabilité américaine, mais si les Américains ne sont plus là, est-ce que c'est pas aux Européens de prendre la mesure de la menace ?
Alors, il y a une différence entre prendre la mesure de la menace et ensuite décider ce qu'on fait face à cette menace. C'est pas la même chose. Et il faut aussi savoir prendre la mesure de la menace d'une guerre totale. Parce que, pardon, mais c'est une menace. Donc, je pense que...
Les propos de Vladimir Poutine sur l'arme atomique, pour vous, c'est pas que de l'escalade verbale.
Il y a de l'escalade verbale de tous les côtés. Et je pense que la déclaration d'Emmanuel Macron participe de cette escalade verbale et me semble extrêmement dangereuse. Simplement, premier point, Gilles a raison de dire, il faut avoir une vision évolutive des choses, en effet. C'est-à-dire que je suis un peu gênée par toutes les considérations qui consistent à dire, puisque nous donnons des chars et que nous allons sans doute donner des avions que nous sommes en train de réfléchir, ça veut dire qu'il fallait les donner dès le départ. C'est absurde de dire ça. La situation évolue et il faut savoir s'adapter et le mesurer. De même, d'ailleurs, que depuis 1991, la situation a évolué et dire Vladimir Poutine est une menace aujourd'hui, donc il l'était dès 2000.
C'est déterministe.
C'est complètement stupide, puisque c'est aussi la façon dont les Américains ont géré ça qui a transformé Vladimir Poutine, qui était une ordure déjà dès le départ et qui était un chef mafieux déjà dès le départ, en le rendant encore plus dangereux. Et donc, nous sommes dans une situation où cette guerre provoque une menace croissante pour nous, européen, c'est-à-dire qu'elle est en train de nous déstabiliser, elle est en train de faire en sorte que les Russes deviennent de plus en plus agressifs, notamment par des cyberattaques et des tentatives de déstabilisation de nos sociétés. Ça ne veut pas dire que on a eu raison et que les États-Unis, par exemple, ont eu raison d'implanter à toute force des bases de la CIA aux frontières de la Russie, comme ils l'ont fait. J'invite tout le monde à lire cette excellente enquête du New York Times publiée cette semaine. Qui raconte comment les États-Unis se sont implantés, la CIA s'est implantée en Ukraine dès 2016 et a formé les renseignements ukrainiens à espionner à grande échelle la Russie. On le savait, mais jusqu'à présent, on n'avait pas le droit de le dire.
Le grand face-à-face, le duel.
Cinq ans plus tard, je prends aujourd'hui une décision très consciente et réfléchie. Je souhaite me présenter pour un second mandat et je suis très reconnaissante à la CDU de m'avoir proposé aujourd'hui comme candidate principale du Parti populaire européen.
Ursula von der Leyen, qui se déclare candidate à un deuxième mandat à la tête de la Commission européenne, sa famille politique, les chrétiens-démocrates, devraient remporter le plus grand nombre de sièges au Parlement européen. Mais c'est pas forcément gagné, Natacha. Cette semaine, François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux européennes, a annoncé qu'il ne soutiendrait pas celle qui devrait être sa candidate. Est-ce que Ursula a du souci à se faire ?
Alors, en effet, François-Xavier Bellamy a tout simplement fait remarquer à Ursula von der Leyen qu'elle est normalement la candidate du PPE, et que dans le PPE, il y a les Républicains, et que quand elle vient en France s'acoquiner avec Renaissance qui essaye de détruire les Républicains, c'est pas très fair-play. Bon, mais tout ça est totalement anecdotique, en fait.
Ah, c'est que de la magouille politique, de l'histoire politique. Il y a du fond, quand même.
La colère des LR est anecdotique. Pourquoi ? Parce que, globalement, Ursula von der Leyen est très largement soutenue par le PPE. Et pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'ils n'ont personne d'autre. Et c'est peut-être là où il faudrait se poser quelques questions. Et de même, il faudrait tout de même s'interroger sur le bilan d'Ursula von der Leyen, sur ce qu'elle a incarné, sur l'absence totale de vision que dénote par exemple son programme sur le pacte vert qui a été mis en place sans jamais réfléchir aux conditions de production en Europe, aux conséquences, c'est même pire, les études d'impact ont été freinées parce que ces études d'impact démontraient que ça allait faire baisser la production en Europe de 7 à 15% disent les échelles les plus faibles. Donc tout cela est tout de même assez problématique. De même, par exemple, que la façon dont Ursula von der Leyen, au fur et à mesure de son mandat, a voulu absolument incarner une dimension européenne qui n'est pas dans ses attributions. Je pense par exemple à son déplacement en octobre 2023 en Israël, dans lequel elle est allée parler au nom des Européens en expliquant, en ne citant que le droit d'Israël à se défendre sans dire un mot de la situation à Gaza, ce qui était évidemment une façon d'outrepasser totalement ses attributions et de mettre en porte-à-faux énormément d'Européens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interrogations à mener sur la vision qu'Ursula von der Leyen a réellement de cette Europe dont on sait qu'elle ne choisit pas entre la dimension fédérale et les États-nations, mais de fait, forcer les choses me semble assez malvenu.
Gilles, Ursula von der Leyen doit-elle se préparer à un second mandat ou ça va être plus compliqué ?
Elle est candidate, elle est sortante, elle doit se préparer, d'autant qu'elle est la favorite. Les Européens vont voter le 9 juin prochain. De tous les enjeux de ce vote pour le Parlement européen, l'enjeu sans doute le plus déterminant est l'élection du président ou de la présidente de la Commission européenne en vertu des pouvoirs dont il dispose. C'est en même temps un enjeu dérivé puisque c'est une conséquence où ça vient à la suite de ce vote. On vote le 9 juin. Ensuite, à la majorité qualifiée, les États membres vont désigner le président de la Commission. Et ensuite, le Parlement européen, à la majorité absolue, va voter sur ce nom. La candidature d'Ursula von der Leyen, qu'on vient d'entendre, elle a été une présidente surprise en 2009. Là, c'est une candidate naturelle et c'est même la candidate favorite pour des raisons politiques. Une que vous avez évoquée, c'est que son groupe, le Parti Populaire Européen, restera sans doute le premier groupe au Parlement européen, mais aussi parce que vous avez 12 chefs d'État et de gouvernement qui sont issus de ce parti-là. Elle est favorite aussi sans doute pour des raisons personnelles, au sens où, en dépit des critiques, et je crois des critiques légitimes sur une gouvernance très solitaire, elle a su faire preuve dans ses relations avec les chefs d'État et de gouvernement d'un certain pragmatisme pour bouger sur des sujets qui étaient importants pour la politique intérieure des présidents et des chefs d'État.
Oui, elle a quand même été présidente de la Commission au moment de la crise du Covid. Il y a quand même eu des avancées en termes de fédéralisme à ce moment-là.
Ça, on va venir, c'est sur le bilan. Et je termine donc sur le dernier point, c'est qu'elle peut donc être élue, puisque je dis elle est favorite, ce qui, dans l'histoire de la Commission, est peu courant. Depuis Jacques Delors, un seul président a été reconduit. C'est pas le meilleur souvenir qu'on a puisque c'est Emmanuel Barroso, mais Jacques Santer a démissionné, Romano Prodi est retourné à la vie politique italienne et Jean-Claude Juncker est parti à la retraite. À partir de là, trois questions, je crois, qui se posent rapidement. La première, c'est elle est la candidate de qui ? En Europe, elle est la candidate du Parti Populaire Européen, c'est-à-dire de la droite classique, et la semaine prochaine à Bucarest, elle sera officiellement investie dans le congrès de ce parti. En France, là, c'est plutôt l'inconnu, puisqu'elle n'est pas la candidate, vous l'avez dit, des Républicains. C'est le seul parti du Parti Populaire Européen à ne pas la soutenir, se marginalisant encore davantage au sein de leur propre famille politique. Est-ce qu'elle sera la candidate de Renaissance ? Ce n'est pas totalement, c'est à la fois naturel et pas naturel puisqu'ils ne sont pas issus de la même famille. Deuxième question, c'est elle est la candidate non pas seulement de qui mais avec qui, c'est-à-dire avec quelle majorité. Elle a été élue avec une majorité très courte en 2019, 9 voix. Est-ce que cette majorité sera suffisante? Est-ce qu'elle sera reconduite? Si elle doit être élargie, à qui? Et puis enfin, je termine par là, c'est ce que disait Natacha, elle est candidate pourquoi? Elle a un bilan, on peut, avec ses ombres et ses lumières. Dans les ombres, il y a notamment ce voyage à Gaza et des déclarations, mais c'est pas la seule. La seule ombre, son entêtement sur le Mercosur en est d'autres, mais elle a aussi un certain nombre de choses à son actif. La question, c'est pour quel projet? Et là, je diverge de ce que disait Natacha. Je trouve que pour l'instant, elle a plutôt donné des gages sur une droitisation alors qu'elle était sur un projet plus de coalition. Et ma crainte est un peu l'inverse de la crainte de Natacha, c'est que les ambitions environnementales de la prochaine commission soient revues fortement à la baisse.
Le grand face-à-face, le duel.
Je me réjouis aujourd'hui de voir converger les visions France et Qatar 2030, qu'il s'agisse d'un plan ambitieux d'investissement de 10 milliards d'euros que nous avons signé cet après-midi, d'un agenda de défense et de sécurité que nous sommes en train de renforcer, de notre combat commun contre le terrorisme et contre son financement, ou du développement de nos liens dans le domaine du patrimoine, de la francophonie, de l'enseignement.
C'était mercredi, Emmanuel Macron, président de la République, après la réception à l'Élysée de l'émir du Qatar. On a entendu beaucoup d'annonces là, dans ce qu'on vient d'entendre, mais le montant de 10 milliards d'euros d'investissement, il résonne particulièrement une semaine après les annonces de réduction de dépenses de 10 milliards d'euros par Bruno Le Maire. Gilles, en fait, on n'a plus besoin de les chercher, on les a trouvés les 10 milliards ?
Oui, vous êtes taquin, parce que vous faites un peu un jeu de bonneteau. Les 10 milliards étaient là, c'est pas exactement...
Il est où ?
Voilà, mais ce sont pas exactement les mêmes. Sur les 10 milliards d'économies budgétaires, il y a parfois, là, un gouvernement est confronté à des situations exceptionnelles. On en a connu quand même il y a peu de temps, la crise financière de 2008-2010 ou le Covid, où il y a des révisions très profondes de la politique économique. Là, on est dans une situation plus classique où il y a une évolution de la situation, ce qui est logique puisque les prévisions de croissance sont bâties à l'été, la loi de finances est votée à l'automne, et la situation en hiver ou la situation au printemps peut être différente, et donc il y a des ajustements. Là, c'est un ajustement qui est un ajustement relativement important, 10 milliards, ce n'est pas rien, et qui pose, je dirais, au moins deux ou trois questions, je vais vite. Une question démocratique sur la forme, c'est un décret qui a été adopté, et on ne passe pas devant le Parlement. Je pense que cette critique-là est peu recevable, au sens où on est dans les marges que prévoit la loi organique, et donc il n'y a pas de problème. On peut regretter quand même que, à la fin de l'année, lorsqu'on a discuté le projet de loi de finances, le gouvernement se soit tenu à des hypothèses qu'il savait irréalistes, et plus encore, il y a un mois, dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, que pas un mot n'ait été soufflé de cette question-là. Mais la question, pour moi, la question centrale, n'est pas la question démocratique, c'est une question économique. Ce choix est symptomatique d'une situation que l'on aborde en position de faiblesse. Parce que on est un des pays de l'Union européenne et de la zone euro dans lequel le déficit et la dette est le plus important, parce que lorsque la situation allait bien, que la croissance était plus forte, on a moins réduit le déficit que les autres. Et donc aujourd'hui, que la situation est plus tendue dans l'Union européenne, avec un retour non pas aux règles précédentes mais à des règles, et surtout sur les marchés, que l'on est à nouveau sous la surveillance des agences de notation, eh bien, il y a une fragilité. Mais si c'est symptomatique, je crois que c'est surtout une décision qui est regrettable, au sens, ou dommageable en tout cas. Je crois une bonne doctrine, une bonne pratique de politique économique, c'est on fixe un niveau de dépenses. Et on se tient à ce niveau de dépenses. Et après, le déficit s'ajuste à la baisse ou à la hausse. Or, là, eh bien, on intervient exactement dans le cycle, c'est une politique ce qu'on appelle pro-cyclique, c'est-à-dire qu'on va contribuer à la baisse de la croissance. Et par ailleurs, on a parlé sur l'Ukraine ou sur l'agriculture, on ne tient pas les dépenses parce que par ailleurs, on dépense aussi beaucoup.
Natacha, un mot quand même, parce que j'y reviens. Est-ce que dans ce contexte-là, même si c'est un peu du bonneteau, 10 milliards qui arrivent du Qatar, on se dit c'est quand même une très très bonne nouvelle?
Nous aurons tous compris toute l'ambiguïté qu'il y a à dépendre des investissements d'un pays comme le Qatar. très clairement, quand Emmanuel Macron explique que nous sommes partenaires dans la lutte contre le terrorisme, c'est oublier que le Qatar finance l'islamisme et les courants qui sont en train de déstabiliser notamment l'islam français. Donc, on se moque du monde. Mais pour revenir à la question économique, je rejoins Gilles sur un point. Oui, ça signifie que nous abordons cette question-là en situation de faiblesse, que la remontée des taux et l'ampleur de la dette qui a été faite ces dernières années font qu'on a un gouvernement qui se retrouve pieds et poings liés. Mais pourquoi se retrouve-t-il pieds et poings liés? Et je pense que là, il faut prendre un tout petit peu de champ. C'est-à-dire regarder à un niveau un petit peu plus large. Pourquoi y a-t-il cet ajustement de 10 milliards? Parce que la croissance française, donc, n'est que de 1% et peut encore baisser, puisque les prévisions du FMI pour la période 2020-2024, c'est 0,6 pour la France, c'est 0,4 pour l'Allemagne, alors que c'est 1,7% pour les États-Unis. Ça nous raconte quoi? Ça nous raconte que les États-Unis ont une croissance supérieure de 2 à 3 fois la croissance européenne, suivant les zones. Et ce différentiel, il est absolument essentiel et surtout, il s'appuie sur, il est la conséquence d'une stratégie économique. Et ça rejoint ce que nous disions du bilan d'Ursula von der Leyen. Gilles citait en effet la question du traité de libre-échange. Nous avons une Europe qui a choisi de faire exactement comme après la crise de 2008, c'est-à-dire de continuer dans un libre-échange qui n'en a strictement rien à faire de la question de la production et qui continue à être fondée sur les flux et qui, du coup, réagit derrière par une rigueur budgétaire quand les États-Unis ont choisi la croissance par une forme de protectionnisme. C'est l'IRA mis en place par Biden. Je vais juste une petite remarque légère. Si nous avions eu, nous, en France, 1,7% de croissance sur la période 2020-2024, ça ferait 250 milliards de plus. Vous imaginez? Alors là, je fais un calcul légèrement de mauvaise foi, je l'admets. Mais si vous rapportez ça au degré de taxation en France, ça veut dire que l'État aurait 110 milliards de plus. On peut en faire des choses avec 110 ouais. milliards, c'est en tout cas mieux que les 10 milliards d'économie de Bruno Le Maire. Bref, tout cela pour dire que c'est un choix économique global. C'est est-ce qu'on choisit de protéger sa production ou est-ce qu'on choisit l'idéologie et le libre-échange généralisé.
Si ma tante avait des roulettes, ça serait un autobus.
Alors, il manque à votre tante des roulettes.
J'ai admis que c'était légèrement de mauvaise foi, mais c'est pour. Le reste de la démonstration est tout à fait juste.
Il manque des roulettes à la tante de Gilles. Il manque de la foi au raisonnement de Natacha. Le manque, c'est le sujet du livre de notre invité.
Quelle transition.
Place au grand débat du face-à-face.
France Inter, le grand face-à-face. Le débat.
Le manque de milliards, le manque de temps, le manque de ressources naturelles. Bonjour Mazarine Pinjot.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Si vous n'aviez pas été là, vous nous auriez manqué. Très habilien avec votre livre, un essai philosophique sur le manque. Il s'appelle « Vivre sans, une philosophie du manque » chez Flammarion. Et il s'ouvre par cette phrase que je trouve géniale mais que je ne comprends pas. Le manque manque. Alors vous allez, je pense, nous l'expliquer. Mais s'il est un endroit où le manque ne manque pas, c'est bien dans la pub.
Sans huile de palme, 100% végétale, naturellement bon.
Un bon goût de chocolat fondant, dans un biscuit moelleux, sans huile de palme.
Ça a quel goût l'huile de palme?
On s'en fiche, il n'y en a pas.
Par quel tour de passe-passe, Mazarine Pinjot, tour de passe-passe assez fantastique, le capitalisme a réussi à faire du plus avec du moins?
Ben voilà, par le génie du marketing, qui a réussi à nous vendre des produits plus chers en enlevant un certain nombre d'ingrédients, ce qui à première lecture évidemment est dans le bon sens, le sens de la transition écologique, le sens de la santé, etc., etc. Mais qui en seconde lecture interroge cette question de la, oui, d'une forme de transsubstantiation du vide en valeur ajoutée. Et c'est le génie du capitalisme.
Est-ce que c'est aussi le génie du capitalisme de se réinventer en permanence Y compris dans le manque.
De se réinventer en permanence, mais aussi de récupérer ses marges, de récupérer ses restes. C'est-à-dire que rien ne peut lui résister. Et c'est justement cette structure de, peut-être de résistance que j'ai essayé d'investir, c'est-à-dire essayer de penser quelque chose qui puisse pas être récupéré dans une dialectique, récupéré par le marché, récupéré par l'évaluation, par la commensurabilité. Et voilà, c'est essayer de comprendre comment on pourrait penser quelque chose qui soit de l'ordre de l'irrécupérable.
Un mot avant de donner la parole à Gilles et Natacha, qui ont lu votre livre, comme moi d'ailleurs, sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on nous prépare un monde où le manque disparaît totalement ?
En tout cas, c'est la promesse.
L'IA, c'est la fin d'un manque même de souvenirs. Mm. Tout est là, il n'y a plus qu'à se baisser. Est-ce que c'est ça le monde de demain, un monde sans manque ?
C'est l'une des promesses
de
l'IA.
On peut même discuter, j'ai entendu cette semaine sur l'antenne de France Inter, discuter avec nos morts. C'est des choses qui commencent à avoir lieu en Chine. On peut reconstituer des voix de nos morts. Si c'est pas ça, un manque absolu qui disparaît.
Alors l'IA, ce qui est intéressant, c'est que en effet, d'une certaine manière, elle répond à ce besoin, mais comme d'autres types de réponses ont été données dans l'histoire de la pensée. Hein. Il y a eu des réponses religieuses, des réponses. Alors là, en l'occurrence, c'est une réponse scientifique. Elle répond en effet à ce manque qui aspire à être comblé, et d'une certaine manière, c'est une réponse assez totalitaire, je dirais, puisque elle répond à toute forme de manque. Mais justement, peut-être qu'elle nous permettrait de réinterroger ce qu'il en est de, non pas du propre de l'homme, parce que cette question du propre, justement, elle est problématique, mais peut-être que ce qui fait notre humanité, c'est pas l'ajout de connaissances, c'est pas une connaissance absolue, parce que si on pense que le propre de l'homme, c'est l'intelligence, alors effectivement, on est déjà battu. Mais c'est précisément l'inverse, c'est-à-dire celui qui est capable de poser des questions. Et poser des questions, c'est enlever, c'est pas ajouter, c'est creuser, c'est introduire du manque précisément. Et ça, l'IA peut pas le faire, introduire du manque. Peut-être que ce progrès assez extraordinaire, à travers l'intelligence artificielle qui vient se combiner avec l'idéologie transhumaniste, devrait nous faire nous réinterroger sur ce qu'il en est de notre... Voilà, de notre singularité. Et notre singularité, elle n'est pas... par ailleurs, c'est formidable, hein, je ne suis pas du tout technophobe ou quoi que ce soit. Mais notre singularité, elle n'est pas là-dedans. Elle est dans celui qui peut interroger.
On est fait de creux autant que de pleins, peut-être. Natacha.
Tout au long du livre, vous évoquez les réflexions, notamment de la philosophie antique, sur la nature de l'homme, puisque c'est en fait le cœur du sujet. Qu'est-ce que nous sommes exactement ? Et cette idée que l'être humain est en fait un être de manque, l'animal sans caractéristiques, ce qui est extrêmement présent dans toute la philosophie grecque. Et en même temps, nous sommes cet animal mu par ses passions, par le désir. Le désir, c'est-à-dire l'idée qu'il nous manque quelque chose et que nous voudrions le conquérir. Comment définir exactement cette articulation entre le fait que nous sommes sans caractéristiques, sans spécificité, et en même temps que ce désir est sans doute un des invariants, un des éléments qui... dont l'être humain n'arrive pas à se débarrasser et qui est peut-être à l'origine de sa violence, son appétit de pouvoir, son appétit de transparaître,
Mais qui est aussi à l'origine de...
Et à l'origine de tout ce qu'il y a de beau dans l'être humain. J'allais y venir après.
Il est ambivalent, le désir.
On parlera du désir.
Ouais. Il est ambivalent et puis il peut se définir de plusieurs manières. D'ailleurs, il l'a été au cours de l'histoire de la philosophie. Il peut se comprendre comme s'originant précisément au manque. C'est-à-dire, il nous manque de manière structurelle une dimension. On n'arrivera jamais à se rejoindre soi-même. Et de fait, la psychanalyse l'a bien montré, lorsque, on va dire, notre conscience émerge, il est déjà trop tard, c'est-à-dire qu'on est déjà construit. Donc il y a quelque chose, un principe qui fait qu'on peut dire non et qu'on peut introduire justement quelque chose qui serait de l'ordre du vide, du trou, du manque, de la faille. Enfin, c'est très difficile de le définir parce que précisément c'est pas quelque chose. Mais on est déjà là, c'est-à-dire on se rejoindra jamais, on ne récupérera jamais ni ses propres origines, ni ce qu'on a été avant de devenir. Enfin, c'est presque une structure de chacun d'entre nous. Et donc la question du désir, elle se pense soit comme s'alimentant au manque, soit au contraire comme une puissance d'être. Et ça, c'est tout le courant Spinoza, Hobbes, et cette puissance d'être qui peut donner lieu à deux interprétations là aussi, soit une puissance d'être au sens de Spinoza, ou au contraire on atteint quelque chose qui pourrait s'apparenter à une forme d'éternité, soit chez Hobbes, la puissance d'être c'est la violence, enfin c'est vouloir plus, c'est l'emporter sur l'autre. Et là, on en arrive en fait à des questions anthropologiques. Et comme toute pensée politique, en dernière instance, repose sur une certaine vision de l'homme, une certaine vision anthropologique, c'est toujours l'impensé hein, de la réflexion politique. Et ben, on en arrive à est-ce que l'homme est mu par des désirs, c'est-à-dire des désirs de violence, de possession, d'appropriation, ou est-ce que ce désir s'alimente à quelque chose qui, s'il était bien entendu, lui permettrait, au contraire, d'être cet homme qui se dépasse, qui se transforme, qui transforme la nature en culture, qui symbolise et qui crée. C'est les deux options. Alors, évidemment, elles existent, enfin, de point de vue réel, elles existent toutes les deux. La question, c'est quel type de dispositif, alors politique en l'occurrence, va favoriser l'un plutôt que l'autre. Et on en arrive toujours à la question du politique.
Et c'est l'homme qui poursuit absolument l'absence de manque qui est violent?
Je dirais que la violence, enfin, c'est difficile de le traduire comme ça, mais la violence et le désir de pléonexie ou de possession ou d'appropriation est l'une des modalités et l'une des interprétations du désir. Mais on pourrait tout à fait considérer que c'est la solution de facilité, qu'en réalité, si ce désir était bien entendu, et voilà, si un autre espace lui était assigné, il pourrait au contraire se transformer en autre chose que de la pure violence.
Gilles,
vous faites le diagnostic d'une irruption du sang dans tous les domaines, et ce diagnostic est aussi une critique, un regret, un sentiment de dysfonctionnement.
Le sang, S-A-N-S. Hein.
De nos,
parce qu'on parle de violence, ça pouvait...
Oui. Sang, S-A-N-S. Je suis sensible à ce diagnostic et ça fait écho à une enquête dont j'ai parlé ici régulièrement sur la Fondation Jean Jaurès avait faite sur la société rêvée des Français. Et on avait commencé en posant une question ouverte à 10 000 Français. On a dit, ça serait, si vous deviez décrire en quelques mots la société idéale, qu'est-ce que vous diriez? Et ce qui m'avait beaucoup frappé, et ça fait un écho incroyable à votre livre, c'est que dans beaucoup de réponses, c'était la France telle qu'elle est, sans quelque chose. Si on enlève, alors parfois c'était sur un registre politique, vous m'enlevez Macron, vous m'enlevez Le Pen, vous m'enlevez Mélenchon, ça serait super. C'était un registre identitaire, vous enlevez voilà de telle religion, ça serait super. Ou un registre social, s'il y a plus de chômage, plus d'inégalité, plus de discrimination. Mais c'était l'utilisation du sang. Et je voudrais partir de là, parce que pour discuter votre thèse, il faut bien comprendre de quoi vous parlez. Et comment on peut... classifier, comment on peut clarifier les différents registres du sang. Parce que il y a le premier registre qui a été, c'était la publicité qu'on entendait, disons le registre matériel, le sans sucre, sans gluten, sans lactose, sans graisse, tout ce que vous citez. Il y a un deuxième registre qui est le registre social, que vous évoquez à un autre moment, le sans travail, sans domicile fixe, sans papier, les sans voix. Et puis il y a un registre, je dirais presque idéologique, les sans-doute, ceux qui sont certains de leurs convictions. Quel est le rapport entre ces trois registres-là?
Il est difficile. Là, vous me posez un peu une colle.
C'est fondamental, ouais. dans le sens, et pas le sang, dans le sens du livre.
Bien sûr. Alors, la question, je relirai plus facilement à la question du sang SANS, du sang gluten, sang huile de palme, etc., à la question du sans-doute, du dogmatisme, qui est quand même assez prégnant de nos jours, et qui est le pendant d'une autre forme de dogmatisme, qui serait un scepticisme généralisé, total, et qui sont toujours les deux symptômes de la crise. Hein. Dogmatisme, scepticisme, c'est les deux mamelles de la crise, et la voie intermédiaire est celle que j'essaye d'investir, qui serait la voie critique, c'est-à-dire celle justement qui ne cède ni au dogmatisme, qui essaye de penser les conditions de possibilité, la différenciation des champs aussi, c'est très des ordres, ne pas tout confondre, ne pas tout littéraliser, mais qui ne tombe pas non plus dans un scepticisme généralisé qui aujourd'hui prend la figure des fake news, de la post-vérité, enfin voilà, des alternatives facts, etc., etc. C'est très difficile aujourd'hui de tomber ni dans le dogmatisme, une nouvelle forme de croyance, et de l'autre côté, ce scepticisme généralisé. Donc ça, je lirais volontiers la question du sang, c'est-à-dire le fait qu'on ait réussi à transformer l'absence en présence, et donc une certaine pensée du plein, quoi, une certaine pensée d'une totalité dynamique qui serait celle, par exemple, du marché, dont il serait impossible de sortir, et à l'intérieur d'une, je vais pas dire des grands mots, mais d'une forme de d'immanentisme, allons-y, c'est pas grave, total, c'est-à-dire on ne peut pas en sortir, voilà, cette totalité dont on ne peut pas sortir. En effet, les deux modalités de pensée sont le dogmatisme et le scepticisme. C'est d'un point de vue structurel, quoi. Alors ensuite, la question du social, c'est là où c'est plus compliqué. Je m'en suis arrêtée dans l'analyse du livre, et sans doute faudrait poursuivre dans cette voie-là, sur un constat qui est cette promotion du sang à travers, en effet, la grammaire du marketing, qui est toujours une grammaire très signifiante, très intéressante. Et de l'autre côté, ce sang qui est devant, je sais pas, sans emploi, sans toit, qui exclut de la communauté humaine, un certain nombre de personnes. Donc d'un côté, la modalité des choses, et de l'autre côté, la modalité des hommes. Et comment le sang, qui devient une valeur pour l'absence de choses, en revanche, condamne complètement un certain nombre de personnes à l'appartenance à la communauté. Alors, je ne vais pas aller trop loin, parce qu'en réalité, je pense que derrière tout ça, il y a une homonymie, en fait, entre ce que c'est que l'humanité, entre la communauté des hommes et ce que c'est que l'humanité en l'homme. Je pense que il y a des sangs qui excluent de la communauté des hommes, mais que tous les hommes, la structure même de notre humanité, s'alimentent à une structure du manque.
Natacha. J'ai l'impression, mais arrêtez-moi si je l'exprime mal ou si je me trompe, que la question fondamentale de toutes les sociétés humaines, c'est de faire en sorte que les êtres humains acceptent leur finitude et, dans cette finitude, ce qu'ils n'ont pas, ce qui leur manque, et la souffrance que ça peut engendrer dans des sociétés qui ont été confrontées justement à la violence de la nature, à l'impuissance face à la fatalité, face aux maladies, etc. Et donc, il y a eu toutes les manières d'accepter cette finitude, qu'il y a la philosophie qui peut être celle d'Épicure ou d'autres philosophes qui travaillent sur justement la régulation des désirs et le fait que le bonheur va apparaître parce que on évitera de souhaiter ce que l'on ne peut pas avoir ou de se laisser aller à des appétits qui ne combleront pas ce manque premier, c'est-à-dire la finitude, la destinée humaine. On a les religions monothéistes, tout le christianisme qui essaye de faire accepter par la promesse que le manque n'existera pas ensuite, et que donc il faut accepter le manque ici. Et on se retrouve du fait du progrès, du fait de la modernité, de la révolution industrielle, dans une société qui, au contraire, promet l'absence de manque ici, et même incite à ne plus supporter le manque. Première question, est-ce que c'était une fatalité que ce progrès technique, progrès médical, progrès industriel, aboutisse à nous inciter à ne plus souhaiter, à vouloir tout et à ne plus accepter le manque? Et comment on fait pour sortir de cette limite qui est que on s'aperçoit qu'en fait, non seulement on ne comble jamais le manque, mais qu'en plus, vouloir combler le manque est en fait un appauvrissement.
Mazarine Pinjot, sur la frustration.
Ouais, voilà, je l'ai exprimé avec des termes qui ne sont pas des termes philosophiques, je l'admets.
Non, c'est tout à fait juste, mais en réalité, chaque époque que vous avez, ou chaque jalon, ou chaque type de réponse qui a été donné, que ce soit par la pensée antique, par la religion, ou aujourd'hui par le consumérisme, sont des réponses différentes à la même problématique. Alors, le monde a changé dans sa structure même, c'est-à-dire que quand même la grande rupture entre le monde antique et le monde moderne, c'est la découverte de l'infinité de l'univers, et le fait que nous nous n'avons plus une place qui nous est assignée dans un tout bien ordonné. Donc ça change quand même un petit peu la donne, et ça change aussi la donne sur la question de l'infini, puisque dans la pensée antique, le fini, c'est la perfection. Donc l'idée de l'infini est quelque chose au contraire de péjoratif et qu'il faut chercher à combattre. Évidemment, l'infini change de sens à partir de la modernité, et donc va ouvrir sur un progrès indéfini, en tout cas, à défaut d'être infini, on peut considérer qu'il est indéfini, et il apportera la réponse que la religion ou que la sagesse, on va dire, antique, qui tend effectivement à réguler ses désirs, ont tâché d'apporter à la même question. Et donc, d'une certaine manière, oui, on pourrait lire l'évolution de la pensée ou l'histoire de la philosophie à l'aune de cette question du manque et des types de réponses qui lui sont apportées en fonction d'un modèle cosmologique, parce que c'est quand même très, très important, d'avoir le cadre général de pensée, mais aussi en fonction du progrès des sciences. Et c'est clair que la science est devenue une nouvelle forme de religion, dans le sens où on attend d'elle, en tout cas, ce que la religion promettait. Cela dit, il y a aussi un retour du religieux sous sa forme fondamentaliste qui vient là aussi essayer de répondre toujours à cette question du manque. Des deux côtés, que ce soit le fondamentalisme ou que ce soit le marché, la réponse peut être dans un premier sens ou dans une première lecture satisfaisante, puisque ça fonctionne d'une certaine manière. Enfin, le consumérisme est la plus belle forme du divertissement, en tout cas la plus efficace. Évidemment, ça crée de la frustration, puisque ça ne peut pas combler un manque. Un manque d'objet ne peut pas combler un manque d'être, par définition. Mais néanmoins, ça nous en distrait. Et donc, c'est la réponse qui est apportée, et avec elle, effectivement, avec les progrès technologiques, qui viennent transformer, en tout cas promettre de transformer l'anthropologie elle-même, c'est-à-dire faire que l'homme ne soit plus un être de manque, et ne soit plus un être manquant. Donc on vient essayer de régler le problème à sa racine et à sa source. Je pense que c'est un contresens, et c'est en ça qu'en effet la frustration demeurera toujours. C'est que précisément, ni le progrès scientifique qui travaille sur la matière, on va dire, ni le consumérisme ne régleront un problème qui est structurel et qui, encore une fois, définit notre rapport premier au monde, notre condition humaine. Alors si on change radicalement l'homme, peut-être qu'effectivement on ne sera plus là pour en parler et qu'on sera passé dans une autre ère où la question du manque sera peut-être dépassée, mais dans ce cas-là on sera aussi dans une ère où l'humanité sera dépassée.
J'ai l'impression à vous écouter qu'on est à l'opposé absolu de toutes les théories aujourd'hui de développement personnel.
Alors en effet, vous m'avez bien percé à jour. Déjà, il y a une chose, moi, qui m'agace prodigieusement, mais bon, c'est peut-être juste moi, hein, c'est la promotion du bonheur. Je vois pas pourquoi le bonheur serait une valeur, au détriment d'autres, par conséquent, qui serait, par exemple, la liberté, la recherche, le questionnement, c'est pas très satisfaisant, c'est inquiétant, c'est déstabilisant, mais c'est peut-être plus intéressant que cette recherche du bonheur. Le bonheur, c'est du marketing aussi. Et surtout, le bonheur vendu dans un kit avec des modes d'emploi, j'y crois pas beaucoup. Et bon, première chose, je pense qu'on est dans une idéologie du bonheur et que le bonheur peut pas être l'objet d'une idéologie. Si on est heureux, tant mieux, et je souhaite à tout le monde d'être heureux, y compris à moi-même, mais ça peut pas être de l'ordre d'une idéologie. Parce que cette idéologie, elle alimente elle aussi ce dont on parle depuis le début, à savoir une certaine forme d'économie en lien avec une anthropologie, avec une certaine idée de l'homme, qui pourrait être comblée par... que ce soit la consommation ou au contraire que ce soit la décroissance, parce que finalement c'est un peu le même paradigme de ce point de vue-là, en tout cas arriver à une forme de complétude, d'amour de soi, etc. Bon, bah c'est... c'est le meilleur allié pour moi du néolibéralisme. Enfin, c'est-à-dire, il faut s'adapter, il faut essayer d'être heureux. Si on est heureux, on sera plus performant. Et moi, je considère que c'est vraiment une, c'est une consolation très pauvre, quoi.
Alors peut-être sur une autre idéologie et une autre frustration pour faire le lien avec les deux précédentes questions sur l'identité. On est dans une période dans laquelle, dans le débat public, la question identitaire s'est substituée à la question sociale, et vous intégrez cette question identitaire dans votre réflexion sur le sang en défendant l'idée, je vous cite, que revendiquer une identité est une manière d'éradiquer le manque, le trou, le vide. Et vous dénoncez donc ce vide idéologique. Est-ce que on peut pas voir les choses exactement dans l'autre sens, que ce serait pas, à l'inverse, non pas un défaut, mais un excès d'idéologie, ce retour aux identités, au sens où on a une représentation figée, abstraite de la société qui emporte tout.
Oui, bon, l'excès peut être un défaut, c'est pas tout à fait incompatible. L'excès d'idéologie, c'est, encore une fois, c'est le dogmatisme, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de prétendre savoir, quoi, enfin, de que son idée, qui normalement est une forme d'interprétation du monde, soit de l'ordre d'une connaissance. Bien sûr que le retour identitaire, alors là, c'est une très bonne solution au manque, comme il est évacué d'emblée. Si nous avons des identités qui nous font appartenir à ou qui font que nous avons du propre, justement, enfin un propre. Qui permettent de répondre à toutes les questions. Bon, bah, le questionnement lui-même, la mise en doute, l'esprit critique n'ont plus voix de cité. Donc oui, le retour aux identités, c'est l'un des marqueurs, justement, de la difficulté d'assumer le manque. Le fait que nous soyons traversés par des identités plurielles laisse et ouvre, dessine l'espace, justement, pour que puisse se nourrir le questionnement sur soi, le questionnement sur son rapport au monde, sur sa place dans la société de ça. À partir du moment où on a une réponse identitaire, bon ben voilà, il n'y a plus besoin de se poser de questions. Donc oui, bien sûr, c'est l'une des réponses contemporaines à l'angoisse du manque.
Ça me donne envie de vous parler de vous. Un mot sur la couverture de votre livre, Mazarine M. Pinjot. Le M.
Le M du manque.
Le M du manque, et surtout le M de Mitterrand, qui est votre nom désormais officiel. Une lettre revient et tout est repeuplé. Est-ce que c'est ça que ça raconte? Est-ce que ça raconte peut-être un peu l'inverse de ce que vous venez de répondre à Gilles? C'est que parfois le manque, on a besoin de le combler.
Je pense pas que le symbolique vienne combler le manque. Le nom du père, bien sûr, c'est très important. Bon, je vais faire une réponse un peu à côté, mais là, bon, la question du nom du père, c'est une question d'inscription dans une filiation, c'est une question de se réinscrire dans quelque chose, voilà. Mais par ailleurs, je pense pas que le manque soit comblé, même s'il est comblé. Comme, par exemple, je prends un exemple très simple. La relation amoureuse, voilà, prenons quelque chose que tout le monde peut comprendre. Quand on est dans une relation amoureuse, ce sentiment, il est alimenté par le manque, même si l'autre est présent. C'est-à-dire que s'il était comblé, s'il y avait une forme d'appropriation, s'il y avait une possession, d'une certaine manière, le sentiment amoureux lui-même serait remis en cause, enfin, en tout cas, pourrait être mis en danger par cette évidence, cette certitude, cette possession. Le rapport à l'altérité, il est toujours creusé par le manque. Et donc, c'est pour ça que le nom du père, oui, bien sûr, c'est à la fois extrêmement important, mais l'altérité demeure, c'est-à-dire que le manque demeure, et heureusement, d'une certaine manière, si tout était comblé, ben, il n'y aurait plus rien à faire. On serait dans ce bonheur béat qui ferait que bon, on serait tout contents de nous-mêmes et on n'aurait plus à avancer. Voilà. Donc, non, oui, c'est à la fois, ça comble, mais heureusement que ça ne comble pas, puisque c'est le lieu de production du sens. Si ce lieu était comblé, ben, on n'aurait plus à produire du sens, on n'aurait plus à être des êtres humains.
Une dernière question, Natacha.
Je voudrais revenir, mais très rapidement, sur la question du désir qu'on a un peu effleuré, parce qu'elle est omniprésente aussi dans la réflexion sur le manque. Or, nous sommes dans une société, me semble-t-il, qui attise les désirs et les manipule. Et à côté de ça, je suis très souvent frappée par la détestation qu'il peut y avoir du désir dans certaines postures, certaines positions qui rêvent d'un être humain transparent, notamment dans les rapports hommes-femmes, et de gens qui seraient capables de connaître parfaitement leur désir, alors qu'il me semble que l'essence même du désir, c'est qu'on ne le maîtrise jamais complètement et qu'on ne sait pas ce qu'on désire.
Ah, bien sûr. Oui, il y a une...
Mazarine Pinjot.
Une forme de... sur la question du désir amoureux, puisque on en parlait, et puis c'est aussi ce dont il est question, hein. Bon... vaste débat qui devrait faire l'objet d'un autre d'une autre séquence, mais aujourd'hui en effet la question du trouble, de l'ambivalence, du surgissement, de l'effraction de ce désir, elle est inaudible. Et c'est dangereux pour nous, c'est dangereux pour la création, c'est dangereux pour la littérature, c'est dangereux pour la fiction. Tout ce qui est de l'ordre du trouble, aujourd'hui, est perçu comme un danger. Donc oui, en effet, et notamment le désir amoureux.
Éloge du trouble et éloge du manque avec Mazarine Pinjot. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci. Votre dernier livre, Vivre sans une philosophie du manque, c'est à lire chez Flammarion. Merci Gilles. Et merci Natacha, vous allez me manquer pendant une semaine. Merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clatt à la préparation de l'émission et aujourd'hui Anaïs Reinhardt à la réalisation et Raphaël Rousseau à la technique.